Invité spécial, Guira FM.
Monsieur Bernard Bungaba, vice-président de l'ANE, bonjour.
Bonjour, madame.
ANE, acte à poser et action à parfaire, nous a dit l'un des invités de Guira FM récemment. Qu'est-ce que l'ANE entend faire pour gagner le pari de ce deuxième tour de l'élection présidentielle et de ce premier tour repris des élections législatives?
Bon, en quelque sorte, pour faire le bilan en mi-parcours des activités qui seraient déjà menées au niveau de l'ANE pour aborder ce deuxième tour pour les présidentielles et le premier tour pour les législatives. Mais je dis d'entrée que vous avez utilisé un verbe ici, verbe parfaire. Il faut toujours se situer dans la dynamique de la perfection. Ce que l'on fait n'est jamais parfait, et il faut toujours avoir à l'idée de se dire que ce que j'ai fait n'est pas suffisant. Et lorsqu'on se situe dans cette dynamique d'autocritique aussi, ça vous donne plus d'armes pour aller de l'avant. Je suis dans cette dynamique. Ce qui s'est passé au premier tour n'était pas parfait.
Alors justement, qu'est-ce qui a déjoué en la défaveur de l'ANE lors du premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives, et comment vous allez mieux faire?
Bon, je crois que c'est ce type de questions qui auraient dû être posées par les uns et les autres. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et lorsque les questions se posent de cette manière positive, il y a des réponses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Je prends l'exemple au niveau des bulletins. Pour les législatives, par exemple, les machines ont leur caprice. Les fichiers de bulletins qui ont été envoyés à l'éditeur, aux éditeurs, est revenu avec de grosses surprises. Inversion de numéros, absence de photos, duplication de logos. Ça, c'est des réalités qu'il ne faut pas éviter. Il faut le dire. Vous prenez par exemple la ville de Bangui. Les populations ne sont pas dans leur lieu de résidence habituel. Beaucoup sont ailleurs. Et beaucoup pensent que là où ils sont, ils doivent voter là où ils sont.
Non, c'est là le bureau de vote, voilà.
Donc il faut installer des bureaux de vote là où ils sont. J'en profite pour dire l'exemple du 3e arrondissement, 2e circonscription par exemple. Nous avons convié les candidats à une réunion pour leur expliquer et trouver avec eux la plateforme nécessaire pour ne pas tomber dans les difficultés du passé. Vous allez par exemple dans le centre de vote de Kudoku qui a 16 bureaux de vote. Une partie des populations votantes de ce centre se trouve au Ledger. Donc vers l'aéroport, il y a un terrain qu'on appelle le terrain Bamar. Certains ont voté là-bas. Ils ne sont pas déplacés pour venir voter ici. Le vote qui s'effectue là-bas ne peut pas être pris en compte parce qu'ils votent sur la base du même code du centre de vote. Du coup, vous introduisez tel code, le premier passe pour Kudoku, le second vous l'introduisez, la machine dit non, ça ne passe pas. Vous voyez, c'est une situation très complexe qu'il faut aborder avec sérénité. Les populations sont éparpillées. Les populations ne sont plus ensemble. Il faut beaucoup de dextérité pour arriver à mettre ensemble des populations qui hier étaient à tel endroit, mais qui aujourd'hui se retrouvent un peu partout. Voilà un peu la problématique qu'il faut résoudre, que nous essayons, avec le concours des candidats, de régler. Mais il faut poser de telles questions pour comprendre.
Alors, beaucoup de candidats, les candidats aux législatives et leurs suppléants, est-ce plus de boulot pour l'ANE?
Beaucoup de boulot parce que aujourd'hui, tel candidat arrive, ça c'est mon suppléant. Deux jours plus tard, le suppléant dit non, je suis plus avec lui et il faut chercher un autre suppléant. Tel suppléant dit non, je suis titulaire maintenant, je veux aller de mon propre chef aussi, je ne veux plus être suppléant. Des va-et-vient, il faut corriger. Même récemment encore, nous étions obligés, quand nous devions mettre en cohérence le fichier des bulletins, nous étions obligés encore de faire appel à des députés potentiels, donc des candidats, venir nous dire qui est leur suppléant. Certains ne sont pas venus. D'autres sont venus. C'est complexe.
Le chiffre total est de...
C'est 1637.
1637. Ouais. Donc, comment gérer tout cela?
Oui, nous gérons ça. Ce n'était pas aussi difficile que ça. Parce que le travail que nous avons fait encore maintenant, le travail de correction sur les bulletins, c'est un travail que nous avions fait. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, les machines ont leur caprice. Les bulletins sont revenus dans l'état où ils se trouvaient. Nous avons pris 3 jours projeter la maquette des bulletins, examiner bulletin par bulletin, photo par photo, nom par nom, logo par logo, circonscription par circonscription. Et nous avons validé l'ensemble de ces documents pour éviter les incohérences qui se trouvaient dans les autres bulletins avant. Ce travail est fait. Je crois une première partie pour les présidentielles, le problème ne se pose pas. Les bulletins sont même déjà édités. Une partie des bulletins pour le législatif, je crois 80% ou 50% c'est déjà édité. Et nous avons le 6, l'ensemble des bulletins ici à Bangui. Donc ça c'est du point de vue...
Quand seront-ils transférés sur le terrain?
Les bulletins arrivent. Nous avons pensé que un problème de dispatching, parce que nous avons écouté par ici, par là, que bon, il n'y avait pas assez de bulletins. Non, il y avait beaucoup de bulletins. Ça veut dire que dans la formation, l'accent est mis sur un dispatching approprié. Ce qui se fait, les bulletins sont collisés centre de vote par centre de vote, bureau de vote par bureau de vote. Nous espérons qu'avec cette rationalisation, nous serions à mesure de ne pas connaître les problèmes de répartition, parce qu'il suffit de compter un lot de 50 avec les 10% dans chaque bureau de vote et déposer là où il se doit pour éviter qu'il y ait des problèmes de bulletin.
Alors là, je vous repose la question de nouveau. Le timeline de l'arrivée de ces bulletins dans les bureaux de vote où ils doivent arriver, ça implique des moyens logistiques et le transport, et surtout une arrivée dans les bureaux de vote dans l'arrière-pays à une date décente.
Il y a eu des problèmes au premier tour, ça je suis tout à fait d'accord, parce que les bulletins étaient arrivés in extremis, pas au bon moment, donc il fallait tout faire pour les faire dispatcher. Ils sont arrivés à temps dans les chefs-lieux. Notre problème, ce n'est pas que les bulletins, les amener dans les chefs-lieux de préfecture, ça ne pose pas de problème. Les chefs-lieux de sous-préfecture, ça c'est vite fait. Maintenant, il faut les déployer à l'intérieur des communes. Le temps avait manqué un peu, ça il faut le dire. Et maintenant, les élections se passent le 14. Nous avons assez de temps. Et je remercie la MINUSCA, la flotte aérienne de la MINUSCA, qui est toujours prête à nous aider, à appuyer pour déployer ces matériels sensibles à l'intérieur du pays. Si nous commençons le déploiement, par exemple, le 7, je crois que plus tard, le 10, le 11, tous les bulletins, du moins tous les matériels sensibles, seront sur les lieux de vote.
Alors comment le matériel sensible est déployé justement dans les communes? Par quel moyen de transport?
C'est une très très bonne question, parce que on se dit peut-être ici que bon, mais tout ça c'est fatigué. Vous savez, il y a un de mes professeurs qui disait, il y a la culture de Inyaka, la tribu d'Inyaka. Il n'y a qu'à faire ça et tout va marcher. Ce n'est pas une science exacte, les élections. Les élections, c'est une science, mais c'est une science sociale qui subit les influences du milieu, de son milieu, qui subit les aléas du contexte dans lequel les élections s'organisent. Comment on les déploie? Les avions, on les prennent pour les déposer au chef-lieu des préfectures. Des préfectures pour aller dans les sous-préfectures. Cette communauté internationale, tant décriée, a loué des véhicules pour mettre à notre disposition. Et ce sont ces véhicules qui sont loués, qui amènent les bulletins dans les chefs-lieux des sous-préfectures, Je donne l'exemple, là où j'avais supervisé avant. Vous prenez la commune, la sous-préfecture de Bozoum. Dans la sous-préfecture de Bozoum, il y a deux véhicules pour la commune de Bozoum. Il y a un véhicule pour la commune de Dangwabili. Il y a un véhicule pour la commune de Kouazo. Il y a un véhicule. Si le travail se fait comme il se doit, si les véhicules sont gérés comme il se doit, les matériels sensibles arrivent comme il se doit aussi. Mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller en véhicule.
Justement, c'est ce que j'allais dire.
Il faut louer des motos. Mais parfois, c'est pas des motos, c'est des pirogues. J'ai en mémoire de Galafondo pour arriver à Posel. Ça fait 60 kilomètres. Transporter ça sur la tête. Parce que la piste qui conduit là-bas, même en moto, c'est pratiquement impraticable. Il faut transporter 60 km sur la tête. Quand vous arrivez à Posel, vous prenez la pirogue. Vous avez encore environ 20 km sur l'eau pour atteindre les deux gros centres de vote qui sont là-bas. Il faut le faire.
Alors, l'hostilité des routes est le fait qu'on fait usage de tous les moyens créatifs pour parvenir à destination. Est-ce que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour ce faire?
Bien, je ne m'aventurerai pas. Je ne suis pas spécialiste de sécurité. Donc, je ne peux pas vous dire que si toutes les conditions sécuritaires seraient réunies. Et quoi qu'il en soit, même dans les pays développés, les conditions de sécurité ne sont pas réunies à 100% à quelques endroits que vous le vouliez. Même au plein cœur de la capitale, il y a des choses qui se passent. Je pense que l'état actuel, le niveau actuel de sécurité de notre pays peut permettre, mais nous pensons qu'avec le concours des forces internationales, avec le concours des forces de sécurité intérieure conjuguées, nous pensons qu'on peut à 80-90% dire que sur l'ensemble du territoire, les matériels pourront atteindre des objectifs fixés.
Où en est-on par rapport à la formation?
Formation, c'est un des aspects importants. Vous pouvez avoir toute la capacité d'un enseignant chevronné pour donner, dispenser avec efficacité une discipline, une matière, une formation, mais il faut que le récepteur soit aussi structurellement disponible pour recevoir comme il se doit. Qu'est-ce que je veux dire? Notre système éducatif est par terre. Tout le monde décrit la baisse de niveau à tout niveau.
Comment on peut pallier les insuffisances du moment?
Je suis en train d'y arriver. Ça va être la troisième fois que la formation va être dispensée. Elle n'est pas dispensée aux étrangers, elle est dispensée aux centrafricains, puisque ça concerne les centrafricains, et nous ne pouvons que travailler avec les centrafricains. La particularité de ce cheminement est que toute la chaîne du personnel de démembrement ou d'appui de l'ANE, c'est des gens qui n'ont pas été cooptés, mais c'est des gens qui ont été soit élus, soit sélectionné après un test. Les agents recenseurs ont été sélectionnés à partir d'un test. Mais je vais vous dire, dans certains endroits de notre pays, les forces de l'ordre ne sont pas encore arrivées là-bas. Il y a des gens qui règnent encore là-bas avec armes. Vous dispensez une formation, ceux qui vont pour la formation dispensent la formation, un tel comme zone dans son coin dit, il faut tel, doit faire partie des agents recensés, sinon ça ne peut pas marcher dans mon village. Et nous marchons sur des œufs. Il faut avoir de la dextérité pour gérer ces situations de terrain, pour ne pas que le moment venu, tel ou tel, mette à mal la poursuite.
Alors, quel est votre conseil? Comment l'ANE s'y prend?
Mais nous comptons sur la persuasion. Persuader nos compatriotes, ceux qui pensent détenir une parcelle de pouvoir qui leur est conféré par les armes, à comprendre que nous devons avancer. Nous devons avancer et donc nous devons faire du chemin à ceux qui peuvent aider pour que les choses avancent. Si nous devons compter sur les forces internationales ne sont pas partout. Elles ne sont pas aussi nombreuses pour couvrir l'ensemble du territoire. Elles ne sont pas aussi nombreuses pour être dans tous les villages. Moins encore les forces de sécurité intérieure. Donc c'est la persuasion, c'est la sensibilisation pour que tout le monde se sente concerné. Et si tout le monde se sent concerné, les choses iront mieux. Je réponds, comment nous avons fait maintenant? Les modules de formation ont été renforcés. Les renseignements sur les procès-verbaux, des données très indispensables qui ne doivent pas manquer, parce que sur la base de ces données, des calculs peuvent être faits. Ça, c'est une formation, cette fois-ci, beaucoup plus pratique. Nous avons fini au niveau de Bangui, sur l'ensemble du territoire, avec les membres des démembrements, et après, ça va être les membres du bureau de vote.
C'est la partie la plus sensible.
Ils en auront encore besoin, parce qu'il faut les former. Même si on doit les former 10 fois, il faut le faire. Un procès verbal mal rempli, ça peut être source de problème. Des chiffres contradictoires sur un procès verbal, bon, lorsqu'ils ne sont pas validés, ça peut créer des problèmes. Ça peut laisser à penser que, bon, c'est un procès verbal qui a été brûlé, c'est un procès verbal qui a été déchiré, c'est des voix qui ont été cachées. En réalité, ce sont ces éléments sur lesquels il faut insister. Le niveau dans nos provinces aussi, ça pose problème. Nos provinces ont été désertées sous la pression des événements que nous avons connus. Ceux qui étaient à un niveau plus ou moins acceptable ont préféré aller voir ailleurs. Mais ceux qui sont restés, c'est avec eux que nous devons faire.
Excusez-moi, c'est les gens qui travaillent au sein des bureaux de vote dans les communes, dans les endroits reculés, qui ont le plus besoin de vos encouragements, n'est-ce pas?
Nous les avons toujours encouragés. Là où je sais que, une fois, je ne cite pas la sous-préfecture, j'ai été séquestré de 11h à 19h pour question d'argent. Mais il faut parler avec eux. Il faut pas se mettre de côté que pour les menacer, les critiquer, dire que des méchancetés à leur endroit. J'ai parlé avec eux jusqu'à 19h. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, au moins vous, parce que les gens pensent qu'ici nous sommes des tueurs, toutes les missions qui viennent ne s'arrêtent pas chez nous. Vous êtes restés avec nous, la prochaine fois quand vous allez venir, vous serez accueillis à bras ouverts. Je crois qu'il faut de la persuasion au lieu de verser dans des platitudes inutiles qui ne font pas avancer les choses. Nous avons eu des difficultés à ce niveau de la formation parce que une des difficultés que l'ANE a eue, c'est la remontée des résultats. Quand bien même que des outils ont été élaborés pour gérer tout ce processus. Quand je parle d'outils, des bordereaux de transmission ont été élaborés pour permettre que lorsque les résultats quittent le bureau de vote, il faut que ça soit amené au niveau de l'ASPE, il faut que ça soit signé par le président. Nous avons élaboré des fiches de réception pour permettre la traçabilité depuis le bureau de vote jusqu'au niveau du chef-lieu de la sous-préfecture avant la montée dans l'avion. Tout ça, nous l'avions fait. Apparemment, ça n'a pas été tellement utilisé. Nous revenons encore sur ça parce que à partir de ces outils, on sait tel nombre de procès-verbaux ont quitté le bureau, tel s'est arrivé à tel niveau, tel s'est arrivé à tel. Mais c'est un travail humain. Je ne garantis pas que ça va être respecté à 100%.
Que doivent faire les votants pour contribuer à la réussite de ces élections et pour faire à ce que ces élections se passent dans un environnement apaisé?
Je n'ai pas de commandement en direction des votants. Ils ont été exemplaires par l'engouement qu'il y a eu, par leur détermination à vouloir voter, donc donner leur point de vue. Je crois ce que, en termes de conseil, je peux dire, c'est de faire la même chose comme la dernière fois. À l'endroit des acteurs, des compétiteurs, il faut qu'ils soient exemplaires. il faut qu'on bannisse l'idée de fraude. L'ANE ne fraude pas. Hein? Il faut bannir l'idée de fraude. Il faut bannir l'idée de trafic d'influence. Les représentants qui sont désignés doivent être responsables jusqu'à la fin. Je veux dire, lorsque vous avez été désigné pour représenter tel ou tel candidat dans un bureau de vote, c'est une responsabilité que vous assumez. Peu importe les moyens qui ont été mis à votre disposition, vous devez être là. Les opérations de vote, si vous êtes deux ou trois, vous vous relayez, les opérations de vote, jusqu'au dépouillement. Si vous avez la possibilité, suivre les colis pour en assurer la sécurité jusqu'au lieu d'enlèvement dans les avions. C'est important pour nous parce que la sécurisation des résultats des élections n'est pas que le travail de l'ANE, c'est le travail des candidats, c'est le travail de leurs collaborateurs. Il faut que ceux qui sont, nous l'avons dit aux candidats, je suis très heureux aujourd'hui de vous le dire, les deux candidats au présidentiel, dont j'apprécie le calme, ont envoyé leurs représentants le voir. Nous voudrions, si l'ANU n'y voit pas d'inconvénient, depuis les bureaux de vote jusqu'au chef-lieu, que un de nos représentants monte dans l'avion pour accompagner ça jusqu'au CTD, au centre de traitement des données. Nous leur avons dit, mais c'est ce que nous vous avions toujours demandé. Ça veut dire quoi? Pour les présidentielles, les représentants des candidats dans chaque région, dans chaque préfecture, monteront dans l'avion, rester à côté des colis pour les accompagner jusqu'au centre de traitement de données. Ça nous réjouit, ça nous enlève une épine de pied, ça nous permet de réfléchir un peu mieux. Mais quand ça arrive au centre de traitement de données, nous conseillons aussi fortement que les représentants des candidats soient là. Si nous devons travailler comme nous l'avons fait, si nous devons travailler jusqu'au matin, qu'ils soient là. Mais qu'ils s'en tiennent à leurs devoirs et obligations. C'est-à-dire, quand ils arrivent, c'est comme observateurs. Ils voient comment les choses se passent. La loi dit, le dépouillement se fait en présence des représentants des candidats. Se fait en présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils sont là, ils regardent, ils voient comment ça se passe. Il n'y aura pas, et il n'y a jamais eu de procès-verbaux brûlés. Il n'y a jamais eu de procès-verbaux déchirés. Vous savez, lorsque on se rappelle ce qu'on a vécu dans ce pays, qui peut se permettre de créer les conditions d'une désorganisation encore?
Vous avez parlé en fait de ces gages de transparence que vous donnez aux représentants des deux candidats aux présidentielles. Quels gages de transparence et de facilité vous donnez aux 1637 candidats aux législatives et à leurs suppléants?
À leurs suppléants et aux titulaires. La difficulté nous avons eue, quand je parlais de logistique, j'ai omis aussi de parler un peu de la qualité des imprimés que nous avons eus, des procès-verbaux. Lorsque vous devez vous incliner devant les exigences de la loi qui dit que bon, tel procès-verbal doit être donné à tel, vous en avez jusque 7, et là, vous en avez jusque 8. Je veux bien croire que la maison d'édition, l'imprimeur qui a été choisi pour faire ce travail, a la technologie la plus appropriée pour que, depuis la première feuille jusqu'à la huitième, que les choses soient lisibles. J'espère que c'est possible de le faire. Si c'était possible, que l'original, puisque c'est des PV carbonés, jusqu'à la huitième feuille, que tout soit lisible, chacun aura sa copie. Dieu merci, le système en Centrafrique est tel que les PV qui sont dessinés ne sont pas dessinés à une seule institution. Vous avez l'ANE, vous avez la Cour constitutionnelle, surtout, vous avez le ministère de l'administration du territoire. C'est aussi un gage de sécurité des résultats qui sont dans les procès-verbaux. Le seul gage, c'est que le travail va être bien fait. Le travail sera fait avec détermination, comme nous l'avons fait par le passé. et ceux qui vont sortir de l'expression même de la population, c'est ceux-là qui seront proclamés, pas d'autres. Non.
Comment les candidats aux législatives peuvent suivre le cours des opérations depuis le bureau de vote jusqu'au centre de traitement des données?
Oui, ça, ils peuvent le faire. Puisqu'il n'est pas interdit que les candidats ou leurs représentants soient dans les bureaux de vote. Au premier tour, ça je le dis, et je crois que ça a été corrigé, même si ça n'a pas eu l'effet qu'il fallait sur l'ensemble du territoire, il y a eu un malentendu. Les membres des bureaux de vote n'ont pas accepté les représentants des candidats dans les bureaux parce que ils disaient il faut avoir l'accréditation de l'ANE. Je pense que nous avons corrigé parce que ce n'est pas l'ANE qui mandate les représentants des candidats. Ce sont les candidats ou les partis qui donnent mandat à leurs candidats. Dès que le candidat, le représentant arrive et il présente le mandat, il doit être le bienvenu dans le bureau de vote parce que sa présence participe aussi de la transparence, de la crédibilité des opérations de vote et de dépouillement.
Ils peuvent être aussi présents au centre de traitement des données?
Ils étaient là avec nous. Hein. Vous savez, par exemple, pour le présidentiel, il y avait 30 chaises avec les noms de chaque candidat. Je me rappelle, c'est un seul qui est venu.
Mais là, on parle des législatives.
Oui, mais c'est un exemple que je donne. Dans la salle de dépouillement, ça se fait à découvert. Ce n'est pas caché. Hein. Quand vous arrivez au centre de traitement, nous avons aménagé un grand hangar. Donc, c'est à l'extérieur. C'est visible. Tous ceux qui travaillent là, ils sont vus à distance. Vous êtes là-bas, vous les voyez dépouillés. C'est à découvert. Je ne crois pas que nous ayons chassé qui que ce soit du CTD. Ceux qui sont venus pour observer, ils ont observé. Il y a eu un petit incident une seule fois, parce que celui qui a été envoyé au Maroc est revenu, et de l'aéroport, il a appelé, mais aucun véhicule n'était disponible pour aller le chercher. Il a pris un taxi-course depuis l'aéroport directement à l'ANE. On ne rentre pas comme ça là-bas à l'ANE. Quand les gardiens, à l'entrée, ont fouillé dans le véhicule, ils ont constaté qu'il y avait une urne. Et rapidement et très vite, les représentants des candidats ont commencé à crier à la fraude. Le procureur est intervenu. Nous avons dit, prenez et vous en faites ce que vous voulez. On a amené à la gendarmerie. Le procureur a donné l'instruction pour que ça soit dépouillé. Le nombre des bulletins de vote correspondait exactement au nombre de voix qui étaient sur les procès-verbaux et l'affaire a été close.
Bernard Bungaba, monsieur le vice-président de l'ANE, je vous remercie de cet entretien.
C'est moi qui vous remercie.